Bienvenue à cette nouvelle édition du balado du mot à la lettre. Pour cet épisode, nous nous déplaçons au 17e siècle, dans le monde du théâtre. Notre invité est un dramaturge célèbre, se passant de toute présentation, mais néanmoins, voici un peu de contexte. Pierre Corneille, Corneille le Grand, est né en 1606 dans une famille bourgeoise. Il fut formé par les jésuites qui l'initièrent au théâtre. Il devint avocat, comme son papa. Mais on le dit peu éloquent, ce n'est pas un milieu qu'il stimule. Rapidement, le roi Louis XIII demeure son seul client. Il éprouve une déconvenue amoureuse et se tourne vers l'écriture. Ce sera Mélite, une pastorale en ville. Il met en scène des jeunes gens de bonne famille à la place des bergers, leur fait vivre des sentiments nobles. C'est la bonne société qui se regarde vivre sur la scène. La pièce connaît un certain succès, suffisant pour encourager notre homme à poursuivre sur sa lancée. Il écrit plusieurs autres pièces, des comédies où l'amour occupe une place importante et devient un protégé du cardinal de Richelieu. Mais le vent tourne, et désormais, les tragédies deviennent les chouchous des spectateurs. Il s'y met aussi, et c'est Médée qui verra le jour. Tout de suite après, il enchaîne avec l'œuvre dont je veux vous parler aujourd'hui, la tragicomédie « L'illusion comique », produite en 1635, juste avant d'écrire le Cid, cette véritable consécration de son talent. Je crois que M. Corneille est prêt pour nos questions. Vous excuserez sa voix troublée. 350 années de tombeau lui ont laissé quelques chats dans la gorge et probablement aussi quelques araignées.
Mais bonjour, gens du 21e siècle. Vous semblez tout pareil aux citoyens de mon siècle passé. C'est fascinant. Je vois que ma voix vous étonne. Quelques gargarismes ont eu raison de mes petits problèmes d'élocution. Nous pourrons discuter toute la journée, si vous le désirez.
Nous avons une grande chance de vous voir avec nous aujourd'hui, cher Sieur Corneille. Après plus de 300 ans de trépas, comment vivez-vous ces moments volés au temps? Que pensez-vous des changements survenus depuis votre passage sur Terre?
Ah, je vous prie de m'appeler Pierre. Pour répondre à votre question, je dirais que c'est du pareil au même. Rien n'a réellement changé, au contraire. Tout se répète sur le même air que naguère, dans la grande boîte à surprises prévisible qu'est la vie.
Monsieur Corneille, pardon, Pierre, parlons donc tout de suite du sujet qui préoccupe nos auditeurs et moi-même. Cette galanterie extravagante, cet étrange monstre, comme vous la décrivez vous-même, cette illusion comique. Vous avez donc 29 ans, avez écrit déjà quelques comédies, votre réputation est faite, mais cette pièce détonne par son propos, son mélange des genres, cette hybridation tragicomique. Quelle en fut donc l'inspiration?
C'est un peu autobiographique. Mon père voulait me voir marcher sur ses traces. Mais j'ai choisi une autre route, et il n'en était pas très fier. Le théâtre avait encore mauvaise réputation. J'ai voulu lui démontrer, en le mettant dans le rôle de prix d'amant à la recherche de son fils, ce fils perdu de vue à cause de sa trop grande sévérité et d'attentes impossibles à remplir, que le théâtre avait du bon, que ce métier méritait le respect, autant que celui d'avocat, qu'il ne s'agissait aucunement d'un caprice ou d'un goût étrange pour l'infamie, mais bien de l'unique manière possible de me réaliser. Et surtout que la richesse et l'honneur s'y trouvaient aussi, puisque payés par le roi. Mon père n'avait donc pas à se sentir embarrassé par ma carrière hors des sentiers battus par ma famille bourgeoise.
D'accord pour la partie leçon au paternel. Mais encore, il y a sûrement autre chose.
L'illusion comique, c'est un peu le lieu de métamorphose de mon œuvre. De mes débuts passés à créer des comédies, j'ai évolué et touché à tous les genres connus, de la commedia dell'arte à la pastorale et à la tragédie. La pièce suit aussi ce parcours, l'époque me permettant encore une liberté totale dans mes choix. On y trouve la pastorale avec ce magicien et sa bucolique grotte, le matamor en bouffon comique, fanfaron grand parleur, digne représentant de la farce. Mais il est tout de même un héros total dans le sens épique du terme. Et finalement, la trahison dans tout ce qu'elle a de tragique. J'ai voulu ainsi que le spectateur ressente une cascade d'émotions, qu'il soit ému, surpris, amusé, transporté entre l'illusion et le réel, tout en abordant l'idée que la vie est une forme de théâtre où chacun joue son rôle. Et c'est ça, le théâtre cornélien. J'ai placé mon théâtre dans le théâtre, et c'est ce théâtre même qui est la vie se regardant jouer. Il s'agit d'une mise en abîme double. Car oui, c'est un concentré de mon œuvre, mais c'est aussi cette scène où le spectateur se regarde regarder les acteurs et se place lui-même dans un rôle d'importance. Car à quoi sert le théâtre sans le public ? J'ai voulu que les spectateurs réalisent qu'ils assistaient à une représentation, leur révéler que tout n'est qu'illusion. Le théâtre comme miroir de la vie, oui, nous ne voyons qu'une apparence d'émotion, le reflet des passions. Nous pouvons penser que c'est aussi le cas de la vie. L'illusion comique, c'est le théâtre qui dévoile ses ficelles. C'est une réflexion partagée avec le public sur l'essence même du théâtre, se faire semblant, sur l'illusion qui enchante.
Et c'est ici que nous parlons du Théâtre Mundi, ce grand théâtre du monde dans lequel nous jouons tous notre rôle.
Il y a très longtemps que cette notion de théâtre du monde existe, des centaines d'années avant ma naissance. Cette idée remonte à la caverne de Platon, à Épictète et sa théorie de la destinée, à l'évêque de Salisbury, qui voit la vie comme une comédie, et bien entendu, au grand maître du théâtre lui-même, Shakespeare, trouvant maintes fois à mettre de l'avant cette idée, par exemple dans la pièce « Comme il vous plaira », où il écrit que « le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. » Donc oui, la vie comme un théâtre est le théâtre qui donne à voir l'illusion de cette vie. Mais on peut aussi demander ce qu'est l'illusion. Les acteurs sur scène sont-ils illusoires ? Non, ils sont réels, tout comme les spectateurs. Les deux groupes vivent réellement cette rencontre, et c'est ce qui est magnifiquement magique.
Je résume la pièce rapidement. Prédamment, un père autoritaire recherche son fils Clindor, qui a quitté la maison à cause, justement, des agissements du père. Ça fait un bon moment qu'il n'en a pas de nouvelles. Le père rencontre le magicien Alcandre, qui l'amène dans sa grotte et qui lui fait voir la vie pleine de péripéties de Clindor. Le tout se termine sur la révélation que tout ça n'était que fiction. Un magnifique travail d'acteur. Quel sens donner à cette recherche?
Prédamment. C'est, comme on l'a dit, la figure du père. Mais il représente aussi le spectateur, celui qui cherche des réponses. Sa quête de sens passe par les illusions d'Alcandre le magicien, tout comme celle du public, qui, elle, passe par la mise en scène, cette autre réalité. Clindor représente les désirs, le besoin de s'adapter, de devenir autre pour arriver là où nous le voulons. Tout comme nous, il est acteur de sa vie et fait tout en son pouvoir pour atteindre ses rêves.
C'est donc là l'idée de théâtre dans le théâtre. La pièce se lit donc à des niveaux multiples.
Oui, absolument. Il y a la pièce elle-même, telle qu'on la voit au premier degré, puis les spectateurs que deviennent Alcandre et Prédamant, regardant les aventures de Clindor. Ensuite, il y a les aventures de Clindor elle-même, et finalement la tragédie de la prétendue mort de Clindor et la révélation finale du jeu par la didascalie qui apparaît à l'acte 5. On tire le rideau et on voit tous les comédiens qui partagent leur argent.
Vous avez eu au moins la décence d'avertir les spectateurs de votre tour de magie, de les aviser de cette illusion dans votre œuvre. On ne peut pas en dire autant de nos jours alors que la venue de l'intelligence artificielle brouille totalement les cartes. La réalité et la fiction sont tout aussi plausibles pour l'humain ordinaire, ce qui ne cesse de poser des questions d'éthique.
En effet, avec le peu que je comprends au sujet de l'intelligence artificielle, le théâtre et celle-ci jouent sur l'ambiguïté entre illusion et la réalité. Le spectateur doit s'interroger sur ce qu'il voit. Il est vraiment étonnant de voir ces créations faites par des machines alors qu'elles ont tout pour nous convaincre qu'elles sont l'œuvre d'un humain. Il y a tout de foi derrière les créations par intelligence artificielle, un créateur. Tout comme il y a derrière la pièce de théâtre, un auteur, un metteur en scène. Tout comme le magicien de l'illusion comique, c'est lui qui fabrique les simulations à l'aide de données mathématiques. C'est quand même fantastique et inquiétant de savoir que nos perceptions peuvent être influencées, manipulées sans qu'on le sache. Ces créateurs ont encore plus de pouvoir que moi. Ils peuvent outrepasser les limites de la perception de l'illusion par l'humain. C'est une énorme responsabilité, dont on peut craindre des retombées néfastes si ce pouvoir se retrouve entre mauvaises mains.
Il est donc très important de garder un esprit critique devant toute chose. Nous comprenons donc que le théâtre et l'intelligence artificielle jouent tous deux sur les apparences et invitent les gens à remettre en question leur perception.
Oui, ces deux univers insistent pour nous démontrer que notre monde en est un de représentation, que la vérité n'est pas toujours celle que l'on croit. On peut le constater dans les jeux politiques de votre époque, dans ces mises en scène destinées à obtenir l'assentiment du plus grand nombre, pour le meilleur ou le pire, sans que personne ne puisse dire ce qu'il en est vraiment. Une réalité alternative est rapidement créée par la désinformation, une autre illusion qui, elle, n'a rien de divertissante. Alcandre fabrique une illusion, une réalité alternative pour prix d'amant, et certains politiciens utilisent dans des stratégies qui influencent pour la perception, proposant eux aussi une réalité sous un verre déformant. C'est par le jeu des émotions qu'on provoque des réactions, et les politiciens de votre 21e siècle l'ont très bien compris. Ils sont, eux aussi, des acteurs sur la scène politique, dans le théâtre de la vie.
Le faire-semblant du théâtre et du monde politique, et même le monde lui-même, ont bien des choses en commun. Monsieur Pierre Corneille, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir quitté pour un court moment votre quiétude éternelle afin de nous offrir vos réflexions éclairées. Il est certain que l'illusion comique, avec sa thématique d'apparence et de réalité, offre de nombreuses occasions de réflexion sur notre monde actuel. Penser que cette pièce fut créée il y a presque 400 ans nous démontre que les progrès technologiques sont rapides, mais que l'âme humaine demeure la même à travers les époques. Comme vous le disiez à votre arrivée, rien n'a réellement changé. Pierre Corneille, merci et bon retour.
Ce fut un réel plaisir de m'entretenir avec vous. Et je ne sais plus si j'ai envie de repartir. Ah, regardez ça. Un hologramme ferait l'affaire. Mais aussi, je peux très bien me faire passer pour un autre que moi, circuler sur les ondes, m'immiscer dans les réseaux, apparaître en filigrane sur un écran tactile. Mine de rien, illusoire mirage. Ne dites rien, je ne suis déjà plus là. Mais je suis encore ici, ailleurs, avec vous, pour toujours, au-delà. À bientôt.
Merci encore, Pierre Corneille. Chers auditeurs, j'ai une confession à vous faire. En fait, c'est une mise au point plutôt importante. Vous aurez compris que la voix de Pierre Corneille n'est pas vraiment la sienne. Personne n'a encore réussi à ressusciter les morts. En effet, jouant avec le thème de l'illusion, cette voix fut générée par un programme d'intelligence artificielle convertissant un texte écrit en voix humaine dans la langue de notre choix. Il s'agit de ElevenLabs.io, une application aux possibilités fantastiques, mais aussi un peu inquiétantes. J'ai écrit les répliques de Corneille, les ai soumises au programme, qui, à son tour, m'a proposé une lecture à haute voix sous forme de fichier audio à intégrer dans ce balado. C'est une expérience vraiment intéressante. J'ai cependant une autre surprise pour vous. Il s'agit d'un autre balado, reprenant les mêmes sujets traités ici, mais cette fois entièrement conçu par l'intelligence artificielle. Le résultat m'a complètement ébahi tellement la qualité est étonnante. Cependant, ce service n'est disponible qu'en langue anglaise. J'ai donc demandé qu'on me traduise le tout en français, et encore là, le résultat est vraiment satisfaisant. Les voix francophones sonnent cependant plus robotisées que les voix anglophones. Les intonations sont parfois étranges, mal placées, et les noms propres sont écorchés. Mais à mon avis, ce n'est qu'une question de moi, avant que ces détails ne soient entièrement corrigés. Je vous laisse donc libre d'en faire l'écoute ici ou de nous quitter. C'est à vous de voir. Et prenez garde, l'illusion est à chaque tournant. Bonne fin de journée!
Bienvenue dans cette plongée en profondeur et, oh mec, prépare-toi car nous allons plonger dans le théâtre baroque français.
Ouh, oui, excitant. C'est ça.
Nous allons explorer cette pièce, l'illusion comique de Pierre Corneille, Et laisse-moi te dire, cette pièce va un peu te retourner
l'esprit. Ça le sera vraiment.
Tu pourrais être surpris par tout ce que ce chef-d'œuvre vieux de plusieurs siècles a à dire.
Sur notre monde encore aujourd'hui.
Je pense que c'est une des choses que j'aime dans ces plongées en profondeur. On ne sait vraiment jamais ce qu'on va découvrir.
Donc,
nous avons tout un tas de sources ici. Nous l'avons. Analyse critique, contexte historique. Nous avons même quelques adaptations modernes.
Et tout va se combiner d'une manière que tu ne croirais pas.
D'accord. Donc, L'Illusion comique, une pièce de 1635 qui aborde illusion, réalité et le pouvoir de la narration.
Ça te dit quelque chose, non?
Ça me dit quelque chose, mais le truc vraiment intéressant, c'est comment tout ça se connecte à quelque chose qu'on entend tout le temps de nos jours, les deepfakes.
C'est ça.
Comment tout cela s'imbrique?
On va en parler, mais pour vraiment apprécier cette pièce, je pense qu'on doit faire un petit voyage dans le temps, jusqu'à l'époque où Corneille écrivait.
Très bien, voyage temporel enclenché. Ramène-nous à la période baroque. Alors, à quoi ça ressemblait?
Imagine l'Europe en perpétuelle transformation. T'as ces guerres de religion qui ont bouleversé le continent.
Okay.
Et en même temps, la révolution scientifique qui remet en question tout ce que les gens pensaient savoir sur l'univers. Pas étonnant que cette époque soit obsédée par l'illusion.
Pas vraiment une période de paix et de tranquillité,
pas du tout.
Alors,
pense à des contrastes dramatiques, de l'art et de l'architecture élaborée et cette frontière floue entre le réel et l'imaginaire. C'est le reflet de l'incertitude de l'époque.
Tu sais quoi? Ça sonne un peu familier, non? Je veux dire, regarde le monde aujourd'hui. Les choses changent tellement vite qu'on ne sait plus trop ce qui est réel, surtout en ligne.
Oui, tu as raison. Et l'illusion comique capture parfaitement ce sentiment. Et tout ce contexte d'instabilité, en fait, le cadre parfait pour une pièce sur l'illusion et le rêve. Ce qui nous amène au génie derrière tout ça, Pierre Corneille.
Ah oui, le père de la tragédie française. C'est lui. Tu penserais alors que l'illusion comique serait un vrai drame à pleurer, mais je sens que ce n'est pas le cas.
Vous saisissiez ce qu'on essaye de transmettre. Corneille était un maître du détournement des attentes et cette pièce mélange vraiment les genres. Elle combine comédie, romance, fantasy.
Intéressant.
Ouais, il a même critiqué sa structure plus tard.
Oh.
Mais honnêtement, c'est ce qui la rend si brillante. Surtout pour un public moderne.
D'accord. Intriguant. Qu'est-ce qui est si différent dans la structure?
Bon. Imaginez ceci.
D'accord.
Une pièce dans une pièce,
wow.
Dans une pièce. Voire même une autre pièce en plus, pour faire bonne mesure. Ça commence avec ce gars. Un père bohème qui recherche désespérément son fils perdu. Il va voir ce magicien, Alcantara. Ouais. Et il lui dit, « Hé, je peux te montrer des visions de la vie de ton fils. » Et ces visions sont des pièces jouées juste devant lui.
Wow, mon esprit est officiellement soufflé. Alors, Corneille dit en gros, « Hé, la vie elle-même, c'est un peu une performance, non? »
Ouais, t'as tout compris.
Attends une minute. C'est le truc du Théâtre Mundi.
Oui, Théâtre Mundi. Le monde est une scène. Concept énorme dans la littérature baroque et l'illusion comique l'amène à un tout autre niveau. Oui, Corneille utilise cette structure de pièce dans une pièce. C'est ce qu'on appelle « mise en abîme », juste pour nous rappeler constamment qu'on n'est jamais vraiment sûr de ce qui est réel et de ce qui est une illusion.
D'accord, je vois ces poupées russes dont tu as parlé d'une toute nouvelle manière. C'est comme si on pelait des couches de réalité pour en trouver toujours une autre en dessous. Alors, comment ce magicien Alcantara s'insère-t-il là-dedans? Il semble être un personnage assez central.
Il l'est. C'est comme le marionnettiste qui contrôle toutes ces illusions que nous voyons. Pense à lui comme le réalisateur ultime, orchestrant le spectacle comme une partie de sa vie. Et Corneille joue ici avec des concepts assez lourds. Il nous demande de se demander si ce que nous croyons être vrai n'est pas juste une illusion.
Et ça revient à notre monde actuel, n'est-ce pas?
Oh, oui.
Je veux dire,
clairement.
Pense à toutes les façons dont nous sommes constamment bombardés d'informations filtrées par des algorithmes et les réseaux sociaux. C'est difficile de savoir à qui faire confiance.
Exactement. Corneille était vraiment en avance sur son temps en explorant ses idées. Mais ce n'est pas que de la philosophie pointue. Il insère aussi des personnages incroyables qui sont bien plus que de simples figures clichés.
Oui, tu as mentionné quelques perles dans tes notes. Matamor, le soldat fanfaron. Oui, Klinder, le fils métamorphe, ou un. Et Lys, le serviteur rusé. C'est ça, commençons par Matamor. Je suis déjà intrigué.
Eh bien, Matamor vole carrément la vedette. Imagine un personnage plein de vantardises, qui raconte des histoires incroyables d'héroïsme, qui sont, disons, un peu exagérées.
J'adore ça.
C'est essentiellement le Deadpool de l'ère baroque.
Attends, donc Matamor est comme le premier anti-héros. J'adore ça. Alors, comment s'inscrit-il dans une pièce qui parle de l'illusion et de la tromperie?
Eh bien, Il est presque comme une parodie du héros traditionnel,
d'accord.
Ce qui était assez audacieux pour l'époque de Curnet.
Oui.
Il joue constamment un rôle, essayant de projeter cette image de lui-même qui ne correspond peut-être pas à la réalité.
Oui.
Pense à combien de personnes font ça aujourd'hui, créant ces personnages parfaits en ligne qui ne reflètent pas toujours qui elles sont vraiment.
C'est comme s'il anticipait notre obsession moderne de créer l'image parfaite en ligne. D'accord. Alors, nous avons Matamor, l'influenceur original. Qu'en est-il de Klindor? Il semble être un personnage fascinant.
Turnure est tout à propos de la transformation.
D'accord.
Il a été voleur, serviteur, même amant, prenant constamment de nouveaux rôles et identités. Il n'aime pas juste le changement. Il embrasse chaque transformation pleinement.
Donc, c'est l'ultime caméléon.
Oui.
Dans le monde d'aujourd'hui, il serait comme le roi de l'économie de petits boulots, se réinventant constamment.
Précisément. Cette idée de rejeter une identité fixe, de choisir le changement plutôt que la stabilité, résonnait vraiment avec la mentalité baroque. Rappelle-toi, c'était une époque où tout semblait en suspens. Klendor incarne ce sentiment d'incertitude et l'excitation d'embrasser l'inconnu.
Ça te fait te demander, s'il était là aujourd'hui, serait-il l'ultime travailleur indépendant, passant d'un boulot à l'autre, avec comme une personnalité en ligne différente pour chacun?
C'est une pensée fascinante,
ouais.
N'est-ce pas? Et puis tu as Lise, qui n'est pas ton servante typique.
D'accord.
Elle est perspicace, manipulatrice, et honnêtement bien plus rusée que ses soi-disant supérieurs.
Oh! J'adore un personnage qui renverse les attentes. Elle a l'air d'être une vraie force de la nature. Qu'est-ce que tu peux nous dire à son sujet?
Eh bien, elle tire toujours les ficelles, utilisant
d'accord.
son esprit et son intelligence pour obtenir ce qu'elle veut. C'est presque comme si Corneille suggérait que le vrai pouvoir ne se trouve pas toujours là où on pourrait le penser.
Oh,
parfois,
d'accord.
ce sont les personnes sous-estimées qui détiennent le vrai pouvoir.
Alors, dans Seven Core, il ne faut jamais sous-estimer qui que ce soit, non? Je veux dire, parfois, les personnes, peut-être sont les plus silencieuses dans la pièce, sont celles qui manigancent tout en
coulasse. Corneille nous a donné ces personnages incroyables qui semblent toujours pertinents aujourd'hui.
Ouais.
Il nous rappelle que la nature humaine, avec toutes ses complexités et contradictions, est intemporelle.
D'accord. Donc, on a une pièce située à une époque obsédée par l'illusion, une structure de mise en ébime qui nous tient constamment en haleine et des personnages qui sont en avance sur leur temps. C'est beaucoup. Je suis officiellement accro. Bien. Mais nous n'avons toujours pas parlé de cette connexion époustouflante
avec
les deepfakes.
On y arrive.
D'accord.
Mais d'abord, plongeons un peu plus dans les thèmes centraux de l'illusion comique. On va voir comment Corneille reprend ses angoisses baroques sur la réalité
d'accord.
et l'illusion pour créer une histoire à la fois divertissante et stimulante.
Ça me va, montre le chemin, allons-y. Bon, on a établi que l'illusion comique est comme un rêve baroque fiévreux. Oui, plein d'illusions, d'identités trompées et de personnages qui pourrait rivaliser avec les influenceurs d'aujourd'hui.
Où va-t-on à partir de là?
Eh bien, tu te souviens du concept de Theatrum Mundi dont on a parlé? Oui, le monde comme une scène. Corneille prend cette idée et la pousse à l'extrême. Il ne dit pas seulement que la vie est une
oui.
performance.
Il nous montre comment cela se passe réellement dans la vie de ces personnages.
OK, je suis prêt pour le spectacle. Mais comment fait-il ça exactement? Je veux dire, c'est une chose de dire que la vie est une scène, mais c'en est une autre de la faire vivre dans une pièce.
Eh bien, il utilise ces couches d'illusion, cette structure
d'accord.
de pièce dans la pièce, pour constamment brouiller la ligne entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et Alcandre, le magicien, est essentiel ici. Il est comme le réalisateur ultime, façonnant la perception de son fils par Prix d'Amant à travers ses illusions élaborées.
Donc, c'est comme si on regardait Prix d'Amant regarder une pièce, mais on regarde aussi une pièce
exactement.
Nous-mêmes. Ça me donne le vertige.
C'est le but. Corneille veut qu'on remette en question, genre, tout
ouais.
ce qu'on voit. Il demande ce qui est réel et qui décide. Ce sont des questions énormes à l'époque baroque, un moment où les gens se débattaient avec de nouvelles découvertes scientifiques et remettaient en question l'autorité traditionnelle.
Ça me fait réfléchir à quel point nos perceptions peuvent être facilement manipulées, surtout aujourd'hui avec toutes les fausses informations et la désinformation qui circulent en ligne. C'est comme si chacun vivait dans sa propre version de la réalité, façonnée par les informations qu'il consomme.
C'est une connexion vraiment perspicace et ça montre à quel point les idées de Corneille sont intemporelles. Il se posait ces questions des siècles avant l'existence d'Internet.
Oui.
Mais il nous montre aussi que ces illusions, ces histoires qu'on se raconte, peuvent avoir des conséquences réelles.
Oui, ce n'est pas juste un débat philosophique abstrait. Pense à comment les sentiments de Pridiman envers son fils sont complètement transformés par les illusions qu'Alcantara crée. Il passe par tout cet éventail d'émotions. Désespoir, colère, même joie, tout basé sur ce qu'on lui montre.
Et cela souligne le pouvoir du récit. Corneille nous montre que les histoires, même si elles ne sont pas entièrement vraies, peuvent avoir un impact profond sur nos vies. Tout comme un dramaturge talentueux peut manipuler les émotions d'un public, notre propre narration intérieure peut façonner notre façon de vivre le monde.
D'accord. Donc le concept de Theta Mundi n'est pas juste un exercice intellectuel. Non.
Corner en cela viscérale. Il nous montre comment ces idées se déroulent dans la vie de ces personnages. C'est comme s'il disait « Hey, faites attention, parce que les histoires auxquelles vous croyez ont le pouvoir de façonner votre réalité. »
Absolument. Et cela nous amène à cette connexion stupéfiante qu'on a mentionnée. D'accord? Les deepfakes. Rue les deepfakes. Tu te souviens de comment on a parlé d'Alcantara comme d'un marionnettiste? Ouais. Qui contrôle les illusions que nous voyons? Eh bien, les deepfakes sont un peu comme ça. D'accord. C'est une forme d'illusion moderne, une manière de manipuler les perceptions en utilisant la technologie.
Attends. Tu es en train de dire qu'une pièce écrite en 1635 est en quelque sorte connectée aux deepfakes?
Je dois
en entendre plus à ce sujet.
D'accord. Alors, pensez-y. Les deepfakes sont des vidéos où le visage de quelqu'un est numériquement superposé sur le corps d'une autre personne. Oui. La technologie est devenue si bonne qu'il peut être presque impossible de dire ce qui est réel et ce qui est...
Ouais. C'est fou.
Et ça joue directement dans cette fascination baroque pour les pouvoirs du faux.
La capacité de créer des illusions si convaincantes qu'elles brouillent les frontières entre la vérité et la tromperie.
Wow! D'accord. Donc tu dis que Cornette prédisait en gros les deepfakes au 17e siècle?
Eh bien, il ne les prédisait pas littéralement. Mais il explorait ces angoisses sous-jacentes sur la nature de la réalité et le pouvoir de l'illusion. Lelouch, Jean Comique, est comme un proto-deepfake, nous montrant à quel point nos perceptions peuvent être facilement manipulées et comment ces manipulations peuvent avoir des conséquences dans le monde réel.
C'est un peu troublant, pour être honnête. Je veux dire, si on ne peut même pas faire confiance à ce qu'on voit de nos propres yeux, alors à quoi peut-on faire confiance? C'est comme si le truc de croire ce qu'on voit volait
en éclats.
C'est
une préoccupation valable, et la pièce de Courtais semble nous avertir du pouvoir séduisant de l'illusion et du besoin d'une bonne dose de scepticisme. C'est comme s'il disait « N'acceptez pas simplement ce que vous voyez ou entendez, remettez tout en question. »
Donc, ce n'est pas juste une pièce sur l'illusion et l'imaginaire, non? C'est une pièce sur la littératie médiatique, sur l'importance de la pensée critique dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations.
Exactement. Et c'est ce qui la rend si pertinente aujourd'hui. À l'ère des deepfakes et des fake news, les réflexions de Korn sont plus importantes que jamais. Il nous rappelle d'être des spectateurs discriminants, de remettre en question les récits qu'on nous présente et d'être conscient des façons dont la technologie peut manipuler nos perceptions.
Ça me sidère complètement. Donc, on a ce concept de théâtre mundi, les deepfakes, le pouvoir du storytelling. Tout est connecté. C'est vrai, mais Corneille ne s'arrête pas là, pas vrai. Il y a tous ces autres thèmes tissés à travers la pièce, comme les relations père-fils, l'ambition, l'amour. Ouais, comment ça s'insère dans ce puzzle baroque?
Ils ajoutent de la profondeur et de la complexité à l'histoire.
D'accord.
Montrant que même au milieu de toute cette illusion et de cette incertitude, il y a ces expériences humaines universelles qui nous ancrent. Pense à l'histoire de Prédivine. Il est poussé par son amour pour son fils. Mais il doit aussi apprendre à laisser de côté ses idées préconçues et accepter Klindor tel qu'il est, avec tous ses défauts.
C'est tellement universel. Je veux dire, qui n'a pas appris cette leçon à un moment donné? Parfois, les personnes qu'on aime le plus nous surprennent et on doit apprendre à les accepter pour qui ils sont, non pas pour qui on voudrait qu'ils soient.
Exactement. Et puis, il y a Klindor, qui incarne cet esprit baroque de rejet, d'un chemin tracé et d'acceptation du changement. Il est poussé par l'ambition, un désir de vivre toutes les expériences que la vie peut offrir. D'une certaine manière, il est l'ultime individualiste, forgeant son propre chemin dans un monde en constante évolution.
C'est presque comme un entrepreneur moderne, pas vrai? Toujours en train de trimer, toujours à la recherche de la prochaine opportunité. C'est comme s'il disait « Oublie la stabilité, je vais créer ma propre chance. »
C'est une façon fascinante de voir les choses. Et puis, il y a Lise qui nous montre que le vrai pouvoir ne vient pas toujours du statut ou de la richesse. C'est une femme dans une position de servitude, mais elle utilise son intelligence et sa ruse pour gagner de l'influence et façonner les événements. Elle nous rappelle qu'il ne faut jamais sous-estimer personne, peu importe leur position sociale.
On dirait que Corneille nous offre un aperçu des complexités de la nature humaine. Il nous montre que même dans un monde obsédé par l'illusion et la tromperie, il y a toujours ces désirs humains fondamentaux pour l'amour, l'ambition, la connexion qui nous motivent.
Tu as tout à fait raison. Et ce sont ces éléments humains qui font que l'illusion comique est bien plus qu'un simple exercice philosophique astucieux. C'est une pièce pleine de vie, pleine d'humour et pleine de réflexion, aussi pertinente aujourd'hui jusqu'au XVIIe siècle.
J'adore cette exploration approfondie, moi aussi. Nous avons voyagé de la philosophie baroque au faux-semblant numérique, des structures de mise en abîme aux serviteurs rusés qui pourraient diriger le monde.
C'est beaucoup à absorber.
J'ai hâte de voir quelles autres surprises Corneille nous réserve, mais je pense qu'il nous faut un moment pour assimiler tout cela.
Je suis d'accord. Faisons une pause et laissons mûrir ces idées. Nous reviendrons bientôt pour finir notre exploration de l'illusion comique.
Je crois que mon cerveau a enfin rattrapé le rythme. Cette immersion dans la bande dessinée Le Louchon a été un tourbillon d'idées. Oui, illusion, réalité, faux-semblant numérique, tout y est. Et dire que tout a commencé avec une pièce écrite il y a plus de 4 siècles...
C'est vraiment étonnant. C'est un hommage au génie de Corneille, n'est-ce pas?
Ouais.
Il a réussi à créer une œuvre qui n'est pas seulement divertissante,
mais aussi
profondément réfléchie, remplie de réflexions qui résonnent encore avec nous aujourd'hui.
C'est comme s'il avait touché quelque chose de fondamental dans la nature humaine. Ouais. Notre fascination pour l'illusion, notre besoin de comprendre le monde à travers des histoires, notre lutte constante pour distinguer le réel.
Exactement.
Ouais.
Et il fait tout cela avec des personnages incroyables qui sont bien plus que de simples symboles ou archétypes. Ils semblent réels, relatables, même s'ils vivaient dans un monde très différent du nôtre.
En parlant de ces personnages, je voulais revenir sur Matamor, le soldat fanfaron. Oui, c'est une figure tellement exagérée, pleine de vantardises et de récits farfelus.
En surface,
qu'en penses-tu ?
C'est une figure comique, pleine de fanfaronnades et de bravades. Mais je pense qu'il y a plus en lui que ça. Je crois que Courtenay l'utilise pour satiriser l'idée du héros traditionnel, celui qui est toujours fort et sans peur. Matamor est imparfait et peu sûr de lui, parfois même lâche. Et pourtant, il a quelque chose d'attachant, quelque chose qui nous fait l'encourager, même quand on sait qu'il est plein de vent.
C'est comme s'il était un prototype de tous ces coquins adorables qu'on voit dans les films et séries aujourd'hui.
Oh oui, totalement.
Les Han Solo, les Jack Sparrow, les personnages qui enfreignent les règles, mais ont quand même un bon fond. On les aime parce qu'ils ne sont pas parfaits, parce qu'ils nous rappellent qu'on a le droit d'être imparfait, de trébucher et de faire
des erreurs. Exactement. Et d'une certaine manière, Matamor incarne cet esprit de la période baroque.
D'accord.
La remise en question de l'autorité, la volonté de se moquer des traditions. Il nous rappelle qu'on ne doit pas toujours prendre les choses pour argent comptant, que parfois, un bon scepticisme est nécessaire.
Il est aussi un excellent exemple de la manière dont Corneille utilise l'humour pour explorer des thèmes sérieux. Oui, notamment nous fait rire, oui. Mais il nous fait aussi réfléchir sur la nature de l'identité, sur les masques que nous portons, les histoires que nous nous racontons, et le monde.
Et puis il y a Klindor, le fils métamorphe. Il est à l'opposé de Matamor à bien des égards. Il change constamment, s'adapte à de nouvelles situations et embrasse l'inconnu.
C'est un peu le freelance ultime, non? Toujours en mouvement, toujours à se réinventer, ça me fait penser à quel point notre monde valorise l'adaptabilité et la flexibilité. Oui, dans le marché du travail actuel, il faut être prêt à porter de nombreux chapeaux, à apprendre constamment de nouvelles compétences et à pivoter quand c'est nécessaire.
Absolument. Et
oui.
Le parcours de Klindor parle de ça. Il n'a pas peur du changement. En fait, il semble s'épanouir dedans. Il refuse un chemin fixe, choisissant plutôt d'embrasser les possibilités de l'instant. C'est une mentalité très baroque. Cette idée que l'identité est fluide, que nous évoluons et devenons constamment.
Il me fait penser à toutes ces personnes qui ont construit leur carrière en exploitant leur présence en ligne. Elles soignent constamment leur image, s'adaptent aux nouvelles tendances et trouvent des moyens créatifs de monétiser leurs compétences. C'est comme le manuel de Klindor pour l'ère numérique.
C'est une comparaison fascinante, n'est-ce pas? Et puis, il y a Lys, qui est probablement mon personnage préféré dans la pièce. C'est une servante, mais c'est aussi la personne la plus intelligente et ingénieuse sur scène. Elle a toujours un coup d'avance, manipulant les situations à son avantage.
Elle est l'exemple ultime d'un personnage qui défie les attentes. On pense qu'elle va être une servante typiquement soumise, mais ensuite elle se révèle être celle qui tire les ficelles, déjouant tout le monde autour d'elle. Et je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ce sentiment d'être sous-estimé.
Absolument. Et Grenier fait un point sur la nature du pouvoir. Il nous montre que le vrai pouvoir ne vient pas toujours de la richesse ou du statut social. Parfois, il vient de l'intelligence, de l'esprit, de la capacité à voir ce que les autres manquent.
Lee est un rappel qu'on ne devrait jamais sous-estimer personne et que le vrai pouvoir réside souvent dans des endroits inattendus.
Exactement. Et c'est à travers ces personnages, Madame O'Clinderlays et tous les autres, que Corneille donne vie au thème de l'illusion comique. Ce n'est pas juste une pièce sur des idées, c'est une pièce sur des personnes, sur leur lutte, leurs désirs, leurs triomphes et leurs échecs. Et c'est ce qui la rend si durable, si universellement pertinente.
Cette plongée en profondeur a vraiment été révélatrice. J'ai l'impression d'avoir une toute nouvelle compréhension de l'illusion comique et de sa pertinence dans notre monde actuel. Mais si je devais résumer tout ça, que diriez-vous est l'idée principale à retenir?
Je pense que Kerné nous rappelle d'être sceptiques, de questionner les récits qu'on nous présente et de se rappeler que la perception est un outil puissant qui peut à la fois éclairer et tromper. Dans un monde où la technologie brouille les frontières entre la réalité et l'illusion, ces leçons sont plus importantes que jamais.
Ça fait réfléchir, non? Si Kerné était vivant aujourd'hui, écrirait-il sur les deepfakes? Probablement. Sur les réseaux sociaux, sur la façon dont la technologie façonne notre perception du monde.
Il s'en donnerait probablement à cœur joie, mais bien qu'il écrivait il y a des siècles, ses réflexions sur l'illusion, la réalité et le pouvoir de la narration restent incroyablement pertinentes pour notre monde moderne.
Alors pour conclure, je dirais que Les Ondes Comiques est une lecture incontournable pour quiconque veut comprendre le pouvoir de l'illusion, l'importance de la pensée critique et les complexités intemporelles de la nature humaine.
Je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est une pièce qui vous restera longtemps après l'avoir terminée, vous incitant à questionner ce que vous voyez, à challenger vos présupposés et à admirer le pouvoir durable d'un grand récit.
Et sur cette note, je pense qu'il est temps de conclure cette plongée en profondeur. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage au cœur du théâtre baroque français. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer, de questionner et de plonger profondément.